Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les représentations de Lucia di Lammermoor se sont terminées dimanche à l'Opéra National du Capitole par une dernière triomphale suivie d'une longue ovation du public. Ce fut d'ailleurs le cas tout au long de cette production très réussie du chef-d'œuvre de Gaetano Donizetti, sur laquelle nous allons évidemment revenir dans cette émission. Et pour ce faire, j'ai invité l'ami Robert Pénavert, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse, Classique Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tous les deux, nous accueillons un invité d'honneur, Joël Subiette, fondateur et directeur artistique du chœur Les Éléments, qui vient de faire paraître il y a quelques semaines le CD Waves of Light, enregistré avec le pianiste de jazz Paul Lai sous le label Libellule Records, un très beau disque dont le programme est donné au Parvis de Tarbes le 26 mars et à Toulouse au Théâtre de la Cité le 28. Joël va nous présenter ce disque en seconde partie d'émission. Dans les médias, retour sur l'actualité musicale récente, retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
L'actualité musicale récente, ce sont justement pour l'essentiel les 8 représentations de Lucia di Lammermoor à l'Opéra National du Capitole, une production qui reprenait la mise en scène créée au même endroit par Nicolas Joël en 1998, avec une double et parfois une triple distribution pour les rôles principaux. Robert les a vues toutes, ce qui va lui permettre de nous faire un retour très complet sur ce spectacle donné à chaque fois devant une salle comble. Je sais qu'on le dit souvent dans cette émission, mais c'est une réalité. Ça a été à la fois une véritable réussite sur le plan artistique et un grand succès public et critique. Un de plus, Robert.
Effectivement, Eric. Et puis, cette série, elle s'est finie de manière assez rocambolesque. Et nous y reviendrons, évidemment, à la fin. Alors donc, effectivement, ces reprises de Lucia di Lammermoor se font dans le cadre des reprises d'une coproduction avec le Metropolitan Opera de New York, faut-il le souligner. Il faut dire qu'elle est magnifique. La mise en scène est Nicolas Joël. Les décors sont d'une splendeur gothique absolument imposante. Et ils sont signés Ezio Frigerio. Les costumes, idem.
Ce sont des merveilles.
Et ils sont signés également de son épouse Franca Squarciapino. Et les éclairages aussi de Vinicio Kelly, qui est vraiment un magicien de la lumière. L'écran, franchement, Eric, vous avez vu le spectacle.
Moi, j'ai vu la dernière. Et on voit des tableaux dignes de la Ronde de Nuit de Rembrandt ou des scènes à la cour royale d'Espagne de Velázquez.
Voilà, les tableaux sont magnifiques. Alors, soyons clairs et nets, on ne va pas voir Lucia, on va l'entendre Lucia.
Oui.
On est bien d'accord. Donc, venons à, si vous voulez, à l'essentiel. Et tout d'abord, une première, si l'on peut dire, anicroche dans cette production, puisqu'effectivement, au milieu des répétitions, le chef d'orchestre qui était prévu de longue date, l'Espagnol José Miguel Pérez Sierra, a dû quitter la production malade. Et donc Christophe Gristi a dû faire appel à son carnet magique d'adresse et de 06 de par le monde. Et il a invité un vétéran transalpin, spécialiste de Donizetti d'ailleurs, Fabrizio Maria Carminati, qui est l'actuel directeur artistique du Théâtre Massimo Bellini de Catane et qui a été chef invité de l'Opéra de Marseille de 2008 à 2015. Il dirige avec une partition, mais on se demande vraiment s'il en a besoin tellement. On sent que cette partition, il la transpire par tous les pores de sa peau, ce qui est quand même assez rassurant. Et en particulier, lorsqu'on a une double distribution, c'est le double travail, n'oublions pas, et dans cette double distribution des prises de rôle. Donc, venons à l'essentiel, dont le casting vocal est tout d'abord, évidemment, le rôle-titre. Pour l'occasion, Christophe Gristi a invité une star, l'Australienne Jessica Pratt, qui a chanté ce rôle sur les plus grandes scènes du monde.
Par le monde.
Voilà. Bon, c'est son rôle signature, très clairement. Bon, on sent très bien, dès qu'elle commence à chanter, qu'elle regarde le chef, évidemment, mais enfin,
oui, elle est
tous les deux possèdent tellement cette partition. Et il faut dire que Jessica Pratt domine ce rôle de manière absolue. La quinte aiguë est magistrale. Je ne dis pas la tierce, la quinte aiguë. C'est-à-dire, elle va se prononcer promener sur des contre-mis mais gigantesques, mais d'une sûreté, mais c'est phénoménal, et d'une rondeur aussi, ne nous trompons pas, c'est pas des contre-mis serrés à l'arraché, non, pas du tout, ils sont vraiment en place, c'est une voie extraordinaire. Le contrôle du souffle aussi, c'est étonnant. Alors du coup, ça lui permet un legato, mais absolument gigantesque et infini. La voix est très homogène, les ornementations sont là dès qu'il le faut, elles sont très subtiles, très souples, les dynamiques depuis les fortissimo jusqu'à des messa di voce qui vont du triple piano, enfin bon voilà. C'est en fait un modèle. À ses côtés, une autre starissime de la jante ténorisante actuelle, le Samoan néo-zélandais Pene Pati. C'est un ancien rugbyman qui finalement fait une carrière fantastique, mondiale, magistrale, mais magistrale.
Ah, c'est devenu une vedette, oui.
Ah, c'est une vedette, oui. Alors, personnellement, j'ai trouvé qu'il nous donnait le meilleur de son interprétation dans des demi-teintes absolument planantes, complètement vaporeuses, bien timbrées également, et pas des demi-teintes qui ressemblent plutôt à des falsettos appuyés. Non, c'est pas du tout ça. De vraies demi-teintes, lui également, un excellent contrôle du souffle. Et vraiment, l'interprétation de l'aria finale, il a ouvert devant nous les portes de l'infini, parce que c'était, on le sait, un adieu à la vie.
On va juste faire un petit arrêt pour écouter un premier extrait dans cette émission, et après vous reprendrez évidemment vos impressions sur les autres distributions et tous les rôles principaux. On va écouter justement Jessica Pratt, la soprano australienne, interpréter ici un des grands airs de l'opéra de Gaetano Donizetti, un air de Lucia bien sûr, Il Dolce Suono. Il Dolce Suono, le doux son, air de Lucia dans la première scène de l'acte 3, chanté par Jessica Pratt. La soprano australienne tenait donc le rôle-titre de l'opéra de Donizetti au Théâtre du Capitole en alternance avec Giuliana Gianfaldoni. Et Robert, je vous propose de parler maintenant de cette soprano italienne qui, je crois, vous a beaucoup plu.
Tout à fait. Alors franchement, pour moi, c'était une découverte dans ce rôle fatalement, puisqu'elle l'abordait pour la première fois à Toulouse. Et franchement, c'est d'abord une artiste extrêmement sensible sur scène. Elle, immédiatement, premier mouvement, premier geste, premier regard, première interaction avec notre soliste, et pof, ça y est, le personnage est là. Et puis ensuite, elle se met à chanter, et là, je découvre quand même, honnêtement, une cantatrice de très haute volée. Et elle fait fi de toutes les péripéties vocales de ce rôle, qui, comme chacun sait, en compte des milliers. Elle orne très très subtilement toutes ses reprises avec beaucoup de virtuosité. Et elle incarne non seulement physiquement, mais elle incarne vocalement. C'est-à-dire, elle s'est donné des couleurs à sa voix. Les vocalises avec elle ne sont jamais gratuites. Derrière chaque vocalise, il y a une intention. Pour moi, grande, grande découverte, Giuliana Gianfaldoni. J'espère qu'on la réécoutera au Capitole. Autre prise de rôle, et pas des moindres, c'est celle d'Edgardo, par un ténor que lui, nous connaissons bien, puisque nous l'avons déjà applaudi au Capitole, dans l'Inski de Jean Onegin et dans Tamino de la Flûte Enchantée. C'est un Norvégien qui s'appelle Brock Magnus Tødenes. Lui aussi, dès son entrée, mais vraiment dès son entrée, il se précipite dans les bras de Lucci, puisqu'ils ont un rendez-vous galant, mais un peu en cachette malgré tout. Et on sent, ces deux êtres sont amoureux, mais ça se sent immédiatement. Ça, c'est quand même formidable. Et puis ensuite, ce ténor, il a un style qui est d'une perfection absolue, un contrôle du souffle absolument extraordinaire, un phrasé qui donne le vertige. Voilà, c'est vraiment une prise de rôle que l'on ne peut que saluer. Mais Lucia, c'est pas que ça, il y a des clés de fa aussi. Entre autres, le vénéneux frère de Lucci,
Enrico,
voilà. Donc, dans la première distribution, c'était le baryton belge Lionel Lotte qui s'affirme comme vraiment un baryton avec une voix vigoureusement déterminée, avec un très très bel organe. Et dans la deuxième distribution, début au Capitole d'un Argentin, Germán Enrique Alcántara. Alors là, c'est un baryton qui a une puissance vocale, un grain d'une rare beauté. La voix est très longue, homogène. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnage est vibrant de fureur, ce qui parfois l'éloigne un peu du legato auquel doit avoir droit Donizetti. Mais qu'importe. Ensuite, l'autre clé de fa, c'est Raimondo, qui est le chapelet, mais clairement, il n'est pas si net que ça, parce qu'en définitive, c'est lui qui, par intérêt personnel, va faire signer à Lucia le fameux document de mariage avec le mari qui lui est imposé par son frère. Mais bon, passons là-dessus. Par contre, ce sur quoi il ne faut pas passer, c'est sur son interprète de la première distribution, une basse italienne qui est une véritable légende Michele vivante.
Michele Pertusi.
Michele Pertusi. La ligne de chant, la rondeur de l'émission, l'homogénéité, la projection, le timbre. Enfin, c'est vraiment un immense interprète. Alors cela dit, il ne faut pas oublier le second, Raimondo, la basse italienne Alessio Carciamani, qui faisait aussi ses débuts sur notre scène. Il est absolument gigantesque de taille et il a un timbre d'une torseur absolument sépulcrale, mais son incarnation, autant scénique que vocale, est vraiment ébouriffante, saisissante même. Alors, ensuite, il y a des seconds rôles. Arturo, on n'a pas un grand rôle, mais avec une phrase d'entrée terriblement difficile à chanter, c'est Valentin Till, qui l'a interprété pendant toutes les représentations, qui le fait avec autorité et vaillance, enfin, très très bien. Le normano du ténor Fabien Yon laisse augurer, comme je vous le disais la dernière
fois. Oui, un petit moment
qu'on
parle de Fabien Yon.
De bien belles choses, puisque cette année, en fin de saison, il chante Don José.
Oui, oui.
Et ensuite, bon, alors là, il y avait dans le rôle d'Alisa, il y avait la mezzo-soprano Irina Jarazedichvili. Alors, c'est plus que luxueux, on se demande de quoi.
Oui, oui, oui.
Mais bon, enfin, ben, voilà. Et chaque fois, évidemment, les chœurs du Capitole, sous la direction de Gabriel Bourgoin, se sont révélés
très
à la hauteur. Et maintenant, nous allons arriver, si vous voulez bien,
voilà,
à la fin un peu rocambolesque.
Voilà, vous reprenez votre adjectif rocambolesque parce qu'effectivement, bon, il s'est passé quelque chose.
Les deux dernières représentation avec la première distribution n'était pas avec Penepati, mais avec un ténor mexicain, qui est lui aussi une légende vivante, oui. Hein, Ramon Vargas. Et donc, il venait faire les deux dernières. Pour sa première, donc, en plein au milieu du sextuor qui clôt le deuxième acte, la voix s'est effondrée. Bon, a priori, c'est les cordes vocales qui étaient touchées. Et donc, le directeur artistique avait sorti de sous sa couette, littéralement, le deuxième ténor, Brock Magnus Tödenäs, et il a invité à bien vouloir rejoindre illico presto,
oui, à froid.
Le théâtre, à froid complètement. Le valeureux Norvégien n'a pas eu le temps même de mettre la perruque. Il est arrivé, mais comme s'il avait déjà chauffé sa voix, s'il avait fait monter le timbre, s'il avait calé sa respiration et tout. Il a été absolument extraordinaire. Cela dit, comme il chantait le lendemain et qu'il y avait une autre représentation le surlendemain, il fallait malgré tout que Christophe Grisi trouve donc un quatrième ténor. Il est allé réveiller aussi le bordelais Julien Drang, que nous avons déjà applaudi ici en 2023 dans la Traviata. Il était libre, mais il habite Tours. Qu'à cela ne tienne, Julien Drang est un motard confirmé. Et dès le lendemain matin, il est monté sur sa moto. Il a mis son casque intégral, donc il s'est remis Lucia dans la tête, parce que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas chanté en italien. Il arrive au théâtre du Capitole, et puis un raccord musical. Sur scène, on lui explique à peu près ce qu'il y a à faire. Et le lendemain, le voilà sur scène. Alors, franchement, vous étiez rideau.
Je l'ai vu avec ses antisèches à la main. Hein.
Il avait les antisèches à la main, oui.
À la main, mais il s'est débrouillé de façon extraordinaire.
Extraordinaire. Et en plus, il n'a pas fait qu'assurer.
Ah non, il a vraiment joué.
Non, mais il a incarné. Il a été absolument sidérant. Les demi-teintes, les dynamiques.
Oui, la voix est très belle en plus.
Il a un timbre très clair, d'une belle luminosité. Et d'ailleurs, là, toute cette fameuse scène finale, qui est sa grande scène, à lui, il a chanté sans antisèche.
Rien du tout. Il était complètement dedans. Il a reçu une très très longue ovation du public.
Très longue ovation. Et quand il est venu saluer.
Ses camarades l'ont poussé de scène pour qu'il y ait le triomphe pour lui.
Mais il était épuisé. Il était en larmes. Je pense que nous, Eric, nous ne pouvons pas imaginer la charge mentale. Je crois qu'on ne peut pas l'imaginer.
Encore une fois, bravo, cette production a été une superbe réussite à tout point de vue. Et pour finir ce retour sur Lucia di Lammermoor à l'Opéra National du Capitole, je voulais rendre hommage à Julien Drang et le remercier au nom de tout le public toulousain, parce qu'il a fait bien plus que sauver les meubles en relevant le défi d'interpréter le rôle d'Edgardo quasi au pied levé dimanche pour la dernière. On écoute ce très beau ténor interpréter un extrait de l'air Tombe degli avi miei, air d'Edgardo à l'acte 3 de Lucia di Lammermoor.
Oh, fin degli estinti ai miseri.
Giacombe degli Avi Miei, air d'Edgardo, magnifique. Robert Pennavert est impressionné. Donc
c'est ah oui, air, complètement.
Un
oui,
air à l'acte 3 de Lucia di Lammermoor, chanté par Julien Dran, un chanteur qu'on aura beaucoup de plaisir à réentendre à l'Opéra National du Capitole, où il va revenir prochainement dans le rôle de Cassio.
De Cassio, d'Othello, le mois prochain.
Le mois prochain. Avant cela, le prochain opéra programmé sur la scène lyrique toulousaine, je tenais à le préciser, c'est une version concert d'Armide de Jean-Baptiste Lully, dimanche 22 mars à 15h. Une courte virgule musicale maintenant et l'on retrouve dans quelques secondes Joël Subiette, l'invité d'honneur de cette émission. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Joël Subiette est donc l'invité d'honneur de cette émission. Je rappelle que vous dirigez le chœur Les Éléments, un ensemble que vous avez fondé il y a bientôt 30 ans. Vous fêterez le 30e anniversaire de sa création en 2027. Les Éléments ont fait paraître fin janvier le CD Ways of Light, enregistré avec le pianiste de jazz Paul Lai sous le label Libellule Records. Le programme de ce disque est donné en concert à Tarbes, au Parvis, le 26 mars, à Perpignan, le 27, à Toulouse, au Théâtre de la Cité, le 28 et au Corum de Montpellier, le 29. Une belle tournée en région Occitanie avant un concert à Paris pour finir au Théâtre des Bouffes du Nord, le 30 mars. Vous allez bien sûr, Joël, nous présenter ce CD, mais nous allons d'abord revenir sur la genèse de ce projet, assez singulier, je dois dire. Unir un pianiste de jazz et un chœur plutôt habitué à chanter de la musique sacrée ou de l'opéra, même si, je le sais, hein, vous chantez aussi de la musique contemporaine, eh bien, ce n'est pas commun. Comment est née cette envie de travailler ensemble avec Paul Lai, de réunir un chœur de musique, entre guillemets, classique et le piano jazz?
En fait, pour la petite histoire, donc je connais bien Paul depuis longtemps parce qu'on est originaire de la même ville. Il est plus jeune que moi, mais on a été dans le même lycée, on a un peu le même parcours. On est venus les deux à Toulouse, puis après on a continué à Paris nos études.
Vous pouvez la citer, c'est du lycée Orthez.
Oui, voilà.
Orthez, parce qu'on nous écoute à Pau.
Où hein, je suis né, voilà, et Paul aussi. Deuxième chose, en fait, pendant le confinement de 2020, Paul a sorti un très beau disque, Deep Rivers, avec une chanteuse et son trio de jazz. Et j'ai trouvé ce disque magnifique. Il m'a accompagné dans ces jours où on était un peu morose. Et évidemment, il faisait un hommage à la musique américaine, et notamment au gospel et à plein d'autres choses. Et je me suis dit, oh, un chœur serait le bienvenu dans ce disque, ça pourrait être sympa aussi. C'est parti de là, évidemment le disque se tenait absolument sans chœur, mais c'était juste un petit moyen de l'approcher. Et je suis allé vers Paul et je lui ai dit, est-ce que ça ne t'intéresserait pas qu'on fasse quelque chose ensemble? Paul connaissait les éléments. Il savait notre ouverture sur plein de musiques différentes, notamment, c'est vrai, en musique contemporaine, a pu travailler dans des esthétiques très diverses. Si je pense à Moultaka, sa musique, par exemple, du Moyen-Orient, au compositeur grec Markéas, etc., etc. Donc, il connaissait notre curiosité. Et puis, on a passé un tout petit peu de temps à se faire écouter des musiques qu'on aimait. Lui, il m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu aimes en musique chorale? On s'est retrouvés, on a écouté la musique ensemble, on a parlé. Et puis voilà, est né ce projet où Paul a dit bah, « finalement, je me sens bien d'écrire pour le chœur et mon trio jazz, le piano, donc la batterie et la contrebasse ».
Le projet, au départ, il a vu rapidement ce que ça pouvait donner, Paul Lai, comment il pouvait composer, parce que c'est lui qui a composé la plupart des pièces donc, de cet album. Est-ce qu'il a vu rapidement comment un chœur comme le vôtre pouvait s'intégrer à sa musique?
Alors, je lui ai montré un peu toutes les facettes du chœur, évidemment. Par exemple, je lui ai fait entendre le chœur dans la musique ancienne, ben notamment dans Purcell, dans Bach ou dans d'autres. Et puis, je l'ai fait surtout beaucoup écouter, ou je lui ai montré aussi des partitions de beaucoup de pièces contemporaines qu'on avait créées, profanes et sacrées, qui, évidemment, nous ont amenés vers des utilisations de la voix autres que celles qu'on a dans Bach, par exemple. Notamment aussi des œuvres de Berlioz qu'on a pu chanter. Et donc, Paul a eu l'intelligence, je dirais, et la finesse de se dire, on ne va pas transformer cet ensemble en ensemble vocal de jazz, ce n'est pas notre job, et il y a des très bons ensembles vocaux de jazz qui existent. Donc on est un ensemble entre guillemets classique, avec 5 siècles de répertoire, ou un peu plus même, Et il a plutôt eu l'idée de nous utiliser dans quelque chose qu'on maîtrisait, mais de nous amener dans des terres quand même un peu inconnues. Moi, je dirais qu'à certains moments, il a utilisé le chœur comme un big band vocal et pas instrumental, comme il aurait écrit pour des trompettes, des cuivres. Et à d'autres moments, il nous utilise vraiment dans ce qu'on sait faire, dans la diction du texte. Voilà. Mais c'est vrai qu'il nous a amené vers des onomatopées dans certaines pièces, notre esthétique.
Sachant que l'univers de la musique classique et même baroque ne lui est pas du tout étranger, puisqu'il avait fait un CD Bach magnifique. Hein.
Ah bah oui, il a souvent fait des hommages aux musiques du passé. Hein. Il a même fait dans son album Full Piano Solo un hommage à Beethoven.
Beethoven,
oui.
Absolument.
Et donc, il fait partie de cette génération, nouvelle génération de jazzman qui ont une ouverture sur plein de musiques. Je dirais que la frontière des fois entre le jazz, la musique contemporaine, les musiques de répertoire, les musiques du monde, tout ça aujourd'hui, ça se mélange beaucoup plus aisément qu'il y a 30 ans. Par exemple.
Nous allons écouter un premier extrait du CD que le chœur Les Éléments a enregistré avec Paul Lai et ses musiciens, parce qu'il y a deux autres musiciens, on va en parler. Il s'agit de la pièce qui donne son titre à l'album, Ways of Light. Magnifique Waves of Light par le chœur Les Éléments et le pianiste Paul Lai, accompagné par le batteur Donald Contomanu et le contrebassiste Clemens van der Fijn. Joël Subiette, c'est donc la pièce qui donne son titre à cet album, ce CD Waves of Light, qu'on peut traduire par onde, vague de lumière. En quoi illustre-t-elle l'esprit général dans lequel a été conçu ce disque et ce qu'a été votre collaboration avec Paul Lai?
Alors déjà, dans cette pièce, il y a juste les mots « waves of light » qui sont dits, et le reste, c'est tout en vocalise, en fait.
En sur, bouche fermée.
Oui, hein. Des bouches fermées, sur A, sur O. Et donc, tout le programme, Paul l'a construit autour de la lumière, en fait, qu'elle soit la lumière intérieure, qu'elle soit la lumière de la nature, qu'elle soit, en fait, toutes les formes de lumière, plus mystiques. Cette pièce, c'est vrai qu'elle a quelque chose d'apaisant, d'une grande clarté, même musicale, dans les aigus, dans les... On s'est dit que c'était la pièce qui pourrait peut-être donner son nom à l'album. Mais c'est Paul qui a décidé ça, mais j'étais totalement d'accord avec lui.
Comment vous avez travaillé avec Paul Haye? Est-ce qu'il vous envoyait ses compositions au fil de l'eau, des maquettes, vous échangiez, et puis vous interveniez aussi pour faire rectifier des choses? Ou ça a été assez rapide, en fait, et vous n'avez pas beaucoup retouché ce qu'il vous a proposé?
Il y a eu d'abord une fois où il m'a téléphoné, il m'a dit « Joël, j'en ai fait une, passe à la maison ». Donc, il habite Paris, j'étais à Paris, et je suis allé chez lui. Et puis, voilà, il m'a montré la partition, il s'est mis au piano. De suite, j'ai dit « Waouh, Paul, c'est génial, c'est super, continue ». Après, il a tout composé, sans me demander mon avis pendant la composition, et tant mieux. Et puis, il y a juste après, une fois qu'il a fallu caser, par exemple, certaines pièces avaient du texte, d'autres pièces n'avaient pas de texte. Et là, on a un peu travaillé ensemble, en fait, sur la place du texte, qu'est-ce qui pouvait être le plus vocal, quelle vocalise, est-ce que sur A c'est bien, est-ce que sur O, etc., suivant la hauteur, suivant... Donc là, j'ai juste donné mon avis sur des choses, mais en fait, c'est Paul qui a eu la liberté absolue de composer comme il avait envie de composer.
Oui, parce que vous l'avez dit, il avait déjà composé pour la voix, avec une chanteuse, mais là, c'est pour un chœur, c'est... Même,
oui, c'est une autre
c'est
écriture.
C'est très
oui.
différent, c'est pas ouais. du tout la même écriture.
Voilà, mais c'est une écriture presque orchestrale, en fait. Et comme ils disent, c'est son premier opus, lui, avec un nombre si important de musiciens. Et d'ailleurs, il a depuis fait d'autres choses, une magnifique Rhapsody in Blue, enfin une adaptation avec orchestre, et puis d'autres projets. Il se lance dans des magnifiques projets d'écriture. Voilà, c'est un...
Mais je me dis aussi que vous connaissiez les capacités de votre cœur, les couleurs... les différentes nuances de voix qu'on peut y trouver entre les hommes et les femmes, parce que là, d'un cœur, il y a des hommes et des femmes, bien sûr.
Ouais.
Donc c'est peut-être là que vous avez pu lui apporter certains conseils.
Alors disons, c'est vrai que je lui ai aussi passé beaucoup d'enregistrements du cœur, ce qui fait qu'il a pu entendre
la patte vocale,
la
couleur du cœur,
les couleurs, aussi bien quand on faisait de la musique ancienne, il entendait quelque chose, mais après dans du a cappella ou dans la musique contemporaine, dans des pièces très très, par exemple virtuoses, ou donc il a su, par exemple, voilà à quoi ça pouvait ressembler. Il m'a juste demandé des fois, les sopranos, elles peuvent monter jusqu'où au maximum.
Voilà, c'est là que vous intervenez,
des petits détails techniques, mais voilà, très peu en fait. Il a fait vraiment comme il a voulu. Et tant mieux.
Tout de suite, un autre extrait du CD Ways of Light pour donner un aperçu des arrangements d'œuvres chorales très anciennes qu'on y trouve, comme par exemple Hear My Prayer, O Lord, une pièce d'Henry Purcell. On écoute la version des éléments avec Paul Haye au piano.
Oh,
Hear My Prayer, O Lord, d'Henry Purcell. Rassurez-moi, c'est vous qui lui avez proposé, c'est pas lui qui vous l'a proposé, ça.
En fait, je lui ai fait écouter cette pièce et il m'a dit, mais c'est complètement fou, cette pièce très courte. Il y a déjà tellement de dissonances. Oh, incroyable. Et il a dit, on va mettre cette pièce dans le programme de Purcell. Et après, il en a proposé une deuxième lecture où il rajoute le piano, etc. Il le transforme en gospel, en fait. Voilà.
Parce qu'il y a d'autres œuvres baroques comme celle-ci, hein, de l'époque baroque sur ce disque, et notamment il y a un air d'une cantate de Bach, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen.
Voilà, c'est ça, il a arrangé la partie instrumentale, et nous on chante la partie de Bach, écrite par Bach, il n'y a rien qui change pour nous, et lui dessous avec le trio, ils font leur arrangement, et tout d'abord il y a une entrée instrumentale, juste avec le trio, et après il y a le premier chœur de la cantate, voilà.
Alors, cela dit, c'est pas la première fois que le baroque inspire les jazzmen, et notamment Jean-Sébastien Bach. On a dit que Paul Lai, lui, c'était un disque entier hein, qui était sur Bach. Bon, il y avait eu Loussier aussi dans les années...
Ça date des années
70,
je crois. Les Swingle Singers dans les années 60 aussi. Bach, c'est peut-être le musicien universel dont la musique a parlé à tous.
Y compris aux jazzmen, très souvent.
Oui, tout à fait.
Je me disais, lorsqu'il Paul Lai s'approprier, entre guillemets, ces morceaux-là, est-ce qu'il a plus communiqué avec vous que pour les autres ?
Non. C'est moi qui lui ai fait écouter cette pièce aussi. Il la connaissait pas, oui. On a écouté beaucoup de choses ensemble et c'est des choses que je lui ai proposées, mais juste pour lui dire, voilà ce que j'aime, voilà ce qu'on a chanté, voilà ce qui... Mais c'est ses coups de cœur à lui et après, c'est lui qui a dit, ah oui, ça me plaît, j'ai envie de faire quelque chose.
Vous lui donniez quand même des pistes vous-même ?
Oui, je lui ai fait écouter quand même des choses que j'aimais beaucoup.
Ou même des pistes musicalement parlant pour les arrangements.
Non, ça,
c'est vraiment lui.
Ouais,
hein.
Il a vraiment été libre de faire ce qu'il voulait, oui.
Parce que toute la question, évidemment, surtout quand on s'attaque à de très grands anciens comme Bach.
Ouais, enfin, il faut se réapprocher.
Jusqu'où peut-on aller trop loin ?
Je crois qu'on peut aller jusqu'où on veut, en fait. On a vu, par exemple, Maurizio Kagel qui a fait des arrangements de chorales de Bach où il utilise des mégaphones, etc. Donc, ça peut aller dans des délires absolus. En fait, l'essentiel, c'est de se dire que veut dire l'œuvre au départ et qu'est-ce qu'elle montre. Et après, la changer, la dénaturer, pourquoi pas, voilà, tout est ouvert. Mais tant qu'il y a le respect au départ de l'œuvre. Et puis...
Ce dosage dans le programme du disque entre les compositions de Paul Lai et des œuvres préexistantes, comment il a été réalisé ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il vous a proposées ou que vous lui avez proposées qui finalement ont été exclues ?
Il y a juste une pièce qu'on n'a pas mise sur le disque parce qu'on avait décidé de ne pas la mettre, pour l'homogénéité, puis pour la longueur aussi... Ça s'est fait naturellement en discutant, en créant les œuvres, l'ordre du concert aussi, c'est pareil, on a hésité, on a changé des choses, voilà, le programme a déjà été donné 5 fois en concert, il a évolué au fil du temps déjà.
On va y venir justement à comment vous avez amalgamé tout ça et à quoi ressemble l'ensemble de ce programme. Voici un troisième extrait du CD « Ways of Light » qui montre encore un autre aspect des ambiances musicales que l'on trouve sur cet album. Ce morceau est intitulé « Printemps », c'est assez de circonstances, avec cette fin d'hiver très printanière.
Tulipes de soie, les rondes dentelles d'argent.
Printemps, une nouvelle pièce extraite du CD Waves of Light, enregistrée par Les Éléments et Paul Lai, avec le batteur Donald Contomanu et le contrebassiste Clemens van der Fijn. Voilà un morceau qui tranche avec celui que nous avons entendu précédemment et même avec le premier que j'ai diffusé. Est-ce que c'était un vœu de Paul Lai et de vous-même d'avoir cette variété dans les ambiances et les rythmes des pièces qui composent cet album ?
Oui, je pense que le but était d'avoir un éventail de couleurs le plus large possible. Bon, cette pièce, elle démarre avec une énergie incroyable. C'est aussi la seule pièce en français du programme.
C'est sur un poème de Victor Hugo,
précisons-le. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ouvre le concert avec cette pièce-là parce qu'elle est dans une énergie folle, je dirais, pour tous, pour les chanteurs, pour les instrumentistes.
Est-ce que ça a été d'ailleurs difficile pour vous, pour le chœur, de s'adapter à toute la variété qu'on trouve sur cet album ? Alors, c'est en français, il y a plusieurs pièces, il y en a en espagnol, il y en a en anglais, il y en a en allemand, puisqu'il y a du Bach. Donc, il y a quatre langues, des univers très différents. Est-ce que c'était un gros travail pour le chœur ? Ou est-ce que ça a été surtout de l'amusement, quelque chose d'extrêmement jouissif ?
Les langues, on a vraiment l'habitude de jongler dans les répertoires et dans les langues. Donc ça, ça n'a pas été le problème, la difficulté. Non, c'était plutôt en effet ludique, jouissif de pouvoir avoir toutes ces énergies différentes et toutes ces couleurs.
Oui, alors il y a plusieurs morceaux qui sont sur des poèmes. Hein. Il y en a un sur un poème d'Emily Dickinson, Our Chair of Night. Il y a une pièce sur un poème de Pablo Neruda. Donc là, il y a de l'espagnol et de l'anglais, je crois.
Oui, c'est ça, le poème est dans les deux langues.
Je crois dessus.
Thoreau aussi.
Thoreau, effectivement, Reed Thoreau.
Il y a même une langue qu'on a inventée avec Paul pour une pièce, Ombre et Lumière. On voulait qu'il y ait des couleurs de voyelles, mais qui n'est pas forcément un signifiant. Et donc, on a vraiment inventé une langue en se disant, tiens, ça pourrait ressembler à des moments à une langue slave ou à une langue d'Afrique. Enfin, on s'est vraiment amusé à inventer une langue.
Un espéranto vocal.
Voilà.
Alors, je me posais la question, en concert, quelle est la part que peut avoir l'improvisation dans un programme comme celui-ci ? Bon, on sait que les jazzmen, ils improvisent. Pour l'un cœur, ça doit être un peu plus compliqué. Mais j'imagine que Paul Lai et ses musiciens improvisent autour de vous lorsque vous êtes en concert.
Tout à fait, c'est vraiment dans le principe du jazz. Il y a un thème qui est exposé, puis après, il y a des moments d'improvisation, il y a des grilles qui s'enchaînent d'improvisation. Donc le trio ne cesse d'improviser dans ce concert et dans toutes les pièces, il y a des moments d'improvisation. Pour le chœur, on est plutôt, nous, justement, sur les expositions de thèmes ou sur un accompagnement, par exemple, comme un big band, justement, sur une improvisation, on suit une grille, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on a dessous une base harmonique qui est l'accompagnement. Il y a juste un moment, je dirais, que le chœur n'improvise pas, mais il y a deux endroits où c'est aléatoire pour le chœur. Par exemple, on va dire, chacun arrive quand il veut, à tel moment.
Donc voilà. Il y a un peu de liberté à ce moment-là.
Voilà, il y a un peu de liberté, mais je dirais plutôt que c'est la musique aléatoire que la musique dans le sens d'improvisation jazz, en fait. Ouais. Voilà.
Ce qui veut dire aussi que pour les gens qui vous verront en concert, chaque concert peut être différent.
Ah, carrément. Et l'énergie de leur improvisation, de leur solo, voilà. Chaque concert est différent, ça c'est certain.
Et ça, c'est nouveau pour vous, pour un cœur comme le vôtre.
Oui, alors après, même quand on fait la même musique, chaque concert est différent d'une autre manière. C'est-à-dire qu'un jour, si on donne une cantate de Bach dans une salle sèche et le lendemain dans une cathédrale, on ne chante pas de la même façon, on n'interprète pas de la même façon, on ne met pas les mêmes choses en valeur. Donc, d'un côté, la musique live, c'est jamais la même chose. Mais là, c'est encore plus jamais la même chose puisque ce n'est pas forcément la même musique qui est interprétée de la même façon.
Nous allons conclure cette interview et cette présentation avec un dernier extrait du CD Waves of Light, un morceau qui a un très joli titre, Douce incandescence. 12, 5 ans d'essence, quatrième extrait du CD Ways of Light, enregistré par les Éléments et Paul Lai, accompagné par le batteur Donald Contomanu et le contrebassiste Clemens van der Fien, un disque paru sous le label Libellule Records. Avant de conclure cette émission, je voulais vous annoncer les prochains concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, ce qu'ils donnent au mois de mars à Toulouse et à Tournefeuille. Ils ont lieu les lundis 9 et mardi 10 à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis les mercredis 18 et jeudi 19 à l'escale de Tournefeuille, à chaque fois à 20h30 comme d'habitude. L'orchestre est invité un musicien que l'on a déjà entendu à ses côtés la saison dernière, le violoniste vénézuélien Alexis Cardenas. Cette fois-ci, le programme est sous-titré « Folie Latina » et pour cause, puisqu'il réunit des compositeurs espagnols et latino-américains. Il va donc y avoir, côté espagnol, des pièces de Francisco Tárrega, Manuel de Falla, Joaquín Turiña et Pablo de Sarasate, et puis sont prévues aussi des œuvres du Mexicain Manuel María Ponce, du Brésilien Héctor Villalobos, de l'inévitable Argentin Astor Piazzolla et du Vénézuélien Aldemaro Romero. Pour vous donner une idée de ce programme, je vous propose d'écouter Alexis Cardenas jouer le célèbre Oblivion d'Astor Piazzolla. Il est accompagné ici par l'ensemble Recoveco. Oblivion d'Astor Piazzolla, interprété par Alexis Cardenas et l'ensemble Recoveco. Alexis Cardenas et l'Orchestre de Chambre de Toulouse donnent le programme Folie Latina les lundis 9 et mardi 10 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines et les mercredis 18 et jeudi 19 à l'escale de Tournefeuille. Ces quatre concerts commencent tous à 20h30. Réservation et achat des places sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Concernant le beau CD Waves of Light, enregistré par le chœur Les Éléments et le pianiste Paul Lai, plusieurs rappels. Le premier, c'est qu'il est paru récemment sous le label Libellule Records et que vous pouvez vous le procurer en le commandant sur le site de Paul Lai, www.paul-lai.com, ou sur celui des Éléments, www.les-éléments.fr. Et d'autre part, vous pouvez renoter que le programme de cet album est donné en concert par Les Éléments Paul Lai et ses musiciens, le jeudi 26 mars à la salle du Parvis à Tarbes, le vendredi 27 à l'église des Dominicains à Perpignan, le samedi 28 au Théâtre de la Cité à Toulouse et le dimanche 29 au Quorum de Montpellier. Vraiment, ne ratez pas cette occasion d'aller écouter tous les morceaux du CD Waves of Light en live dans les salles de concert de notre région. Je remercie chaleureusement Joël Suviette d'être venu nous le présenter à Mélomanie et d'avoir été l'invité d'honneur de cette émission. Merci également à Robert Pénavert d'avoir fait pour nous ce retour très complet sur la production et la distribution de Lucia di Lammermoor à l'Opéra National du Capitole. Merci enfin à Jonathan Botello qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Très bonne semaine musicale à tous.